Montpellier, ma ville, votre magazine du lundi matin, un rendez-vous qui vous permet de découvrir les événements, les rencontres organisées à Montpellier ou ses environs, qu'ils soient citoyens, sociaux, culturels ou économiques. Pour ce lundi 20 février, ce numéro est consacré aux femmes très actives, engagées. Dans un instant, Marie-Claude Moncé nous parle de l'association Les Mercredis des Femmes, culture pour tous autour d'un verre. Le quatrième mercredi de chaque mois, des femmes engagées mettent à profit leurs ressources intellectuelles, leur réseau relationnel dans le but d'organiser des conférences débats à l'attention de tous. Un rendez-vous qui permet de partager des idées ouvertes à débat dans des domaines divers. Marie-Claude Moncé nous détaille le programme de ces conférences débats à venir. C'est en seconde partie de ce programme. Tout de suite, place à la DMF 34, une fédération qui œuvre pour mieux connaître la dyspraxie et venir en aide aux dyspraxiques, quel que soit leur âge. La dyspraxie reconnue comme handicap par la MDPH, la DMF 34 œuvre, mutualise les expériences, les compétences, les énergies de tout un chacun afin de créer un véritable réseau d'entraide auprès des personnes en situation de cet handicap et de leurs proches. Pour présenter, nous parler de cette remarquable fédération, j'ai le plaisir de recevoir Nadia Chebaïki, présidente de la DMF 34. Nadia Chebaïki, bonjour et merci d'être parmi nous.
Bonjour Alim, bonjour à tous.
Alors je sais que vous avez un emploi du temps très chargé.
Oui.
Vous n'arrêtez pas, dis donc.
Non, c'est vrai.
Alors actuellement, vous mettez les bouchées doubles car vous organisez prochainement, ce samedi 25 février, un rendez-vous important en compagnie de Sophie Lamour, elle est membre de la CDAPH, de la MDPH 34. C'est une formation donc qui va se dérouler à Nîmes.
Tout à fait, oui, exactement. Donc l'occasion aussi de faire découvrir à tous les Gardois qu'il y a une
nouvelle antenne,
une
DMF
nouvelle antenne,
30,
oui, une nouvelle association DMF 30 qui s'est créée en 2017. Donc à cette occasion, on organise une conférence débat sur quand et comment saisir la MDPH.
Alors justement, c'est les thèmes de cette journée, donc il y a la présentation et le mode de fonctionnement de la MDPH.
Oui.
Et ensuite ?
Et il y a surtout le montage du dossier MDPH qui a énormément son importance compte tenu du fait que la dyspraxie est un handicap reconnu. Et toute la problématique, c'est ce montage de dossier qui requiert énormément de documents et que c'est pas évident pour les familles, d'une part parce qu'il faut déjà accepter le diagnostic quand il est posé, donc reconnaître que l'enfant est dyspraxique, donc il a un réel handicap. Le handicap, c'est dans le sens où il y a des retentissements dans la vie. Donc, il y a des retentissements...
Il y a différents niveaux, mais on va détailler dans un instant l'impact des différents symptômes.
Voilà.
Alors, au cours de cette journée de formation, vous allez également présenter les droits, à quelles prestations également ils peuvent demander, je cherche mes mots.
Oui, bien sûr. Les familles ont des droits pour leurs enfants, pour leur aider à les accompagner, ne serait-ce qu'au niveau de la rééducation. Reconnaître leur handicap auprès de la scolarité, donc mettre en place certains aménagements. Et pour ça, on est obligé de passer par la case MDPH. Voilà, donc c'est un dossier qui est assez lourd, surtout quand il y a une première demande, parce qu'il doit être bien monté, bien ficelé et respecter les trois volets à compléter dans ce dossier, entre autres la partie scolarité, la partie médicale et la partie famille, donc le projet de vie. Donc c'est vrai qu'à cette occasion, à cette journée du samedi 25 février, ça va être l'occasion pour les familles de leur expliquer toute l'importance du cheminement qu'il faut respecter pour déposer le dossier. Et quand le dossier est déposé et bien étoffé, et qu'il y a malheureusement pour certains des refus pour X ou Y raison,
oui, il y a... Vous leur expliquez également les voies de recours.
Voilà, hein. Il y a les voies de recours qui existent et qui est un droit, qui est un droit qui est lié à la loi de 2005. Donc voilà, et souvent des familles, justement, quand ils arrivent à des refus, ils sont tellement désespérés qu'ils arrêtent.
Ils se résignent.
Ils se résignent parce que c'est trop lourd, c'est trop lourd à gérer.
Et sans compter qu'on est confronté aussi à un délai de traitement.
Alors il y a un délai de traitement, voilà, tout ça qui fait que bon, on peut être vite découragé. Donc notre rôle, justement, les associations, c'est de permettre d'accompagner, de soutenir ces familles pour leur dire que voilà, ils sont pas tout seuls, qu'il y a des droits, des lois, et on les accompagne.
Alors, une nouvelle antenne de la fédération, donc DMF 30, a vu le jour à Nîmes, là, en début d'année. Vous avez pu à ce jour faire une sorte de recensement des personnes qui relèvent comme ça de la dyspraxie ou également de l'attente, d'un besoin des familles installées à Nîmes?
Alors moi je reçois quelques appels de familles qui sont dans le Gard. En sachant que ben, dans l'Hérault, on est quand même assez bien connu, donc c'est pas un souci. Dans le Gard, ils connaissent pas encore, ils savent pas qu'il y a une association qui existe. Hein. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai eu quelques familles qui m'appellent du Gard. Et donc, je les oriente automatiquement aussi vers la représentante du Gard qui, elle, est positionnée sur place, donc qui a les contacts nécessaires. Moi, je n'ai peut-être pas forcément en tête. Et dans ce sens, oui, je pense que beaucoup de familles ne connaissent pas l'existence de DMF 30.
D'autant plus que quand on s'aperçoit qu'un enfant est... Ben justement, c'est auprès d'un enfant. On a un gamin qui a 2, 3 ans et c'est là où on se rend compte que des fois, les premiers symptômes commencent à apparaître. Et si c'est le seul enfant comme ça qui relève de cet handicap, on peut très vite être désemparé.
Oui, d'autant plus que DMF 30 démarre. Donc le but, c'est qu'elle se fasse connaître auprès de toutes les institutions, qu'elle se fasse connaître auprès de toutes les écoles, de tous les centres médicaux. Donc c'est vrai que c'est un très très long parcours sur le terrain. Nous, par expérience, dans le 34, on l'a déjà vécu. Ça demande du temps.
Vous avez quand même certaines références, parce que on voit ce que vous faites ici, vous, DMF 34, à Montpellier, ses environs. Donc, ça va pas être si long que ça de lancer la DMF 30.
Non, je pense pas. Il nous faut juste des bénévoles qui nous donnent un coup de pouce pour être plus nombreux, pour avancer vite, plus vite, hein, tout simplement. Ça va se faire, ça va se faire, parce que dans le 34, on s'était fixé des objectifs tels que se faire connaître et reconnaître par les institutions comme l'Éducation nationale, la MDPH. Moi, je siège en CDAPH depuis à peu près 2 ans.
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Tout à fait. Donc, c'est quand même un poste qui a énormément son importance pour les familles. Et on se fixe comme objectif de faire la même chose dans le 30.
Cette antenne va fonctionner à quel rythme? Vous avez défini un petit peu ou...
Alors, il faut savoir que nous, les bénévoles, on est...
Une équipe est en place déjà, voilà. Ou vous êtes sur le point de la constituer?
Non, l'équipe, dans le 30, l'équipe est en place, donc on a un bureau qui est constitué. Les statuts ont été déposés à la préfecture, donc c'est officiel, elle est déclarée, l'association. Maintenant, avec 3 personnes, c'est sûr qu'on n'avancera pas très très vite. Donc moi, je lance un appel, toutes les personnes qui peuvent donner de leur temps, même une heure par semaine ou une heure par mois, eh ben, déjà nous on prend, ça nous permettrait de contacter toutes les personnes qui pourraient être susceptibles de pouvoir aider les familles ou nous les diriger surtout. C'est ça qui est très important. Voilà, mais on a une équipe
générale,
très dynamique.
Oui, ça, j'en doute pas. Mais en général, les premiers bénévoles, ce sont ceux qui sont touchés plus ou moins de près.
Alors, bien sûr, de toute façon, forcément, on est impliqué que si on est touché de très près, c'est-à-dire que si on a notre propre enfant qui a cette handicap. Ceci étant, vous avez des familles qui sont aussi touchées directement, mais qui ne trouvent pas le temps, qui n'osent pas, qui pensent ne pas avoir de compétences à apporter aux associations. Alors moi, je Je pense que toute personne a les compétences, quel que soit son niveau, de pouvoir aider les associations, ne serait-ce que pour organiser des cafés 10, des réunions, pour que les familles échangent, proposent des sorties pour les enfants, pour que ces enfants se sentent rassurés et qu'ils se disent qu'ils ne sont pas tout seuls dans, dans cette situation, pour les familles, pour les enfants, bien sûr. Donc, non, chaque personne peut apporter sa pierre et c'est comme ça qu'on avait fait dans le 34 et c'est comme ça que ça se fait aussi dans d'autres départements de la France pour les associations DMF qui existent déjà. Donc, mais ça se fait par étapes. Voilà.
Et oui. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'est la dyspraxie, c'est difficile pour un enfant qui le vit, mais difficile pour son entourage. Qu'est-ce que la dyspraxie ?
Alors, la dyspraxie, c'est un trouble neurologique qui touche la coordination, la planification des gestes. Donc, ce sont des enfants qui ont du mal à coordonner, automatiser, planifier leurs gestes.
Voilà. Mais il les conçoit bien quand même, les gestes. Mais sauf au niveau de l'organisation.
Non, il ne peut pas les concevoir puisque non seulement il ne peut pas les coordonner, ni les planifier. Voilà. Mm-hmm. Par contre, c'est un handicap, la dyspraxie. On est dyspraxique, on le reste, mais avec de la rééducation, comme la psychomotricité, l'ergothérapie, l'orthophonie, on peut améliorer et mettre en place pour ces enfants des stratégies à un certain âge, où ils vont pouvoir contourner et compenser leur handicap. Mais la dyspraxie, elle ne disparaît jamais. Elle sera toujours là.
Voilà. Non, on lui apprend à faire avec.
On lui apprend à faire avec et à mettre en place des stratégies. Voilà. Mm-hmm. Donc, il réfléchira avec l'âge, il réfléchira mieux comment attraper un verre qui est plein ou à moitié plein, etc. Mm-hmm. Voilà. Enfin, ce sont des choses comme ça, comme écrire, si l'écriture pour l'enfant est difficile, dès le collège, même voire en CM1, CM2, en primaire, on va mettre en place l'outil informatique.
Ça se complique quand même dès la primaire, c'est pas évident pour un enfant scolarisé.
Alors,
parce que dès le départ, si le diagnostic n'est pas tombé, on va dire, c'est vrai qu'on va de suite le qualifier de maladroit, de...
Oui. Mais ça se voit dès que l'enfant rentre dans les apprentissages, c'est-à-dire en grande section de maternelle.
En maternelle déjà, ouais.
Ou primaire. Mmh. En primaire, c'est quand il rentre dans la lecture et l'écriture. C'est là où on voit qu'il y a peut-être un décalage entre les autres enfants. Là, on peut se poser des questions, du moins, et on peut consulter.
On suggère aux parents d'aller
un spécialiste, un neuropédiatre ou un neuropsychiatre, un neuropédiatre c'est mieux, ou un neuropsychologue éventuellement, et là on peut éventuellement faire des tests qui va permettre de dire effectivement il y a une dyspraxie avérée ou pas, ou avec d'autres troubles associés. Voilà. Mmh. Mais c'est quand on rentre dans les apprentissages où on se rend vraiment compte du problème.
Mmh. Voilà. Donc on s'en rend compte très tôt, on va dire, dès qu'il rentre à la maternelle.
Assez tôt, d'autant plus que maintenant, c'est vrai que les médecins ont des outils qui permettent de mieux le diagnostiquer.
Mmh. Plus rapidement.
On remonte à 15-20 ans en arrière, c'était beaucoup plus compliqué. Mmh. Beaucoup d'enfants ont été lâchés dans la nature, ils étaient au fond de la classe parce qu'on ne comprenait pas du tout ce qu'ils avaient. On ne savait pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont, entre guillemets, cette chance de pouvoir être diagnostiqué assez rapidement et de façon fiable. Et dès qu'il y a ce diagnostic, on met rapidement des prises en charge ou des aménagements à l'école de façon à ce que l'enfant puisse s'épanouir et mettre en avant ses compétences. Parce qu'il faut vraiment rappeler que ces enfants, les enfants dyspraxiques, ce sont des enfants intelligents. Si on pose le diagnostic de dyspraxie, c'est parce qu'on a écarté une déficience intellectuelle. Donc, pour certains, ils ont même une intelligence normale.
Parce qu'il y a de bons côtés. Heureusement.
Alors, ils compensent que si on leur donne les bons outils. Mmh. Si on ne leur donne pas les bons outils, si on ne leur donne pas les aides nécessaires pour compenser...
Ça ne va pas se faire naturellement.
Non, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. Pour eux, ils savent qu'il y a un problème, mais ils ne savent pas comment le gérer. Donc, ils ont vraiment, vraiment besoin d'être accompagnés.
Mmh. Alors, les bons côtés, ce sont de bons narrateurs. Ils aiment les histoires, les raconter.
Oui, c'est de beaux parleurs. Ils adorent...
Les jeux de rôle.
Oui, aussi. Voilà, c'est vrai que ce sont des enfants qui sont beaucoup plus à l'aise à l'oral. Donc, moi, j'encourage les enseignants à interroger un élève à l'oral. En général, ils sont plus à l'aise. Bon, sauf, enfin, il faut qu'ils l'acceptent aussi. Hein. Mmh. Vous avez des enfants qui, à l'oral, parce que ce sont des enfants qui manquent énormément d'assurance, de confiance en eux, ils risquent d'être bloqués. Mais souvent, moi, j'encourage l'oral. Voilà, mmh. C'est plus facile pour eux, l'oral.
Et puis, ils sont dotés d'une grande culture générale.
Oui.
Au fil du temps, c'est ce qu'ils développent.
Complètement, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'insiste sur ce fait. Ce sont des enfants qui doivent être mis en confiance, conserver leur estime de soi qui est très fragile. Et avec ça, oui, ils peuvent s'épanouir. Parce que nous, on a des exemples de jeunes maintenant adultes qui sont toujours dyspraxiques, mais
qui ont
été bien entourés.
Et qui ont fait un excellent parcours.
Mais oui, qui ont réussi, et heureusement. Et
heureusement,
ça, c'est l'espoir de toutes les familles. Mmh.
Les matières les plus délicates pour un enfant qui relève de la dyspraxie à l'école, ce sont lesquelles ?
Alors la géométrie leur fait beaucoup défaut, donc ça c'est très compliqué la géométrie. La dysgraphie, si elle est associée à une... La dyspraxie, pardon, si elle est associée à une dysgraphie, donc l'écriture, hein, bien sûr, c'est quelque chose de très coûteux pour eux au niveau cognitif. Mmh. Tout ce qui est géométrie... concernant la dyspraxie visio-spatiale, ça, pareil, dans l'espace, c'est compliqué, se repérer dans l'espace. Mmh. Donc, les cartes de géographie, si elles ne sont pas mises en couleur, avec des gros caractères, pour eux, ils n'arrivent pas à se repérer dans une carte géographique en noir et blanc, chose qu'on voit très souvent dans les cahiers de nos enfants. À l'école.
C'est des feuilles qui sont photocopiées
en 10, 20 ou 30 ou 40 fois. Donc c'est vrai que la qualité du papier...
Mais ça fait partie des aménagements par la suite. Après, c'est ce qu'on peut demander.
Bien sûr.
Parce qu'il y a différents plans d'accompagnement.
Au niveau scolaire ?
Oui, au niveau scolaire, pardon.
Oui, après, c'est vraiment un peu du cas par cas. C'est individuel, parce qu'il faut tenir compte de ses difficultés. Voilà, ses difficultés d'apprentissage, son environnement familial. Il y a plusieurs facteurs qui doivent être tenus compte quand on propose des aménagements. Voilà, donc les aménagements qu'on peut avoir, c'est le mettre devant, dans la classe, près de l'enseignante, pour que l'enseignante puisse de temps en temps le faire revenir vers elle, hein, pour écouter.
Là, vous parlez on appelle ça le PAI, projet d'accueil individualisé.
Alors, non, ce n'est pas le PAI, c'est le PPS, le projet...
Projet personnalisé de scolarisation.
Exactement, voilà.
Donc, ça relève donc directement de la MDPH. Donc, il faut faire une demande...
Voilà. Et quand il y a une reconnaissance auprès de la MDPH pour les enfants dyspraxiques, on met en place un PPS, donc qui fait valoir ses droits. Et dans ce PPS, on met en place des aménagements qui sont discutés autour d'une table avec une équipe éducative, comme l'enseignante, la directrice de l'établissement, l'enseignante référente du handicap, qui travaille par secteur, hein, donc qui fait le lien entre la famille et l'école.
Et l'auxiliaire scolaire, peut-être ?
L'AVS, oui, l'auxiliaire de vie scolaire quand il y en a une. Et la famille, bien sûr, et pourquoi pas l'enfant, quand tout se passe bien, au moins il entend ce que les enseignants disent sur lui. Et il peut dire aussi ce que lui, il pense de ce qui se passe en classe.
Les parents qui sont dans le déni, qui refusent de s'adresser à la MDPH... Que faire dans ce cas ?
Alors, vous avez la possibilité... Alors, ça peut arriver. Mais quand même, s'il y a vraiment des gros problèmes avec l'enfant au niveau des apprentissages à l'école, l'enseignante, son rôle aussi d'avertir déjà la famille, les parents. Mmh. Et on peut éventuellement mettre en place, pareil, des aménagements, mais dans le cadre du PAP. Donc, le PAP, c'est...
Le plan d'accompagnement personnalisé.
Voilà, merci. Et ça ressemble un peu au PPS, enfin, au niveau du contenu. C'est-à-dire que c'est la même chose. Ce sont des aménagements adaptés à l'enfant, sauf que ça reste dans le cadre de l'éducation nationale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas validé par la MDPH, donc par le handicap émis sur la loi de 2005. Donc il y a toujours moyen, d'aider un enfant.
Nadia Chebaïki, merci d'être passée nous voir.
Ben, merci à vous de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. Samedi 25 février, la DMF 34, dyspraxique mais fantastique. Ça se passe à la Cigale, 104 chemin de l'Auberge de la Jeunesse à Nîmes. En présence également de Sophie Lamour, membre de la CDAPH de la MDPH 34. CDAPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Et au cours de cette journée, une présentation et mode de fonctionnement de la MDPH. Pourquoi et comment faire une demande de reconnaissance handicap, les droits, les prestations, les voies de recours également en cas de refus. Merci.
Merci Alim.
On marque une pause, puis nous sommes accompagnés de Marie-Claude Monet. Elle nous parle de son association Les Mercredis des Femmes, Culture pour tous autour d'un verre, le quatrième de vendredi, le mercredi pardon, de chaque mois à la Grande Motte. Des femmes engagées mettent à profit leurs ressources intellectuelles, leurs réseaux relationnels, dans le but d'organiser des conférences, débats à l'attention de tous. C'est dans un instant, c'est sur FM+. Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous. Aujourd'hui, Montpellier Ma Ville est consacrée aux femmes actives, engagées. En première partie, nous étions en compagnie de Nadia Chebaïki. Elle vous donne rendez-vous le samedi 25 février à Nîmes pour une formation. Un moment d'information pour les parents, les familles touchées par la dyspraxie de leur enfant. Nous restons dans l'univers des femmes engagées. Marie-Claude Moncé nous parle de l'association Les Mercredis des Femmes, culture pour tous autour d'un verre. Marie-Claude Moncé, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci à vous.
Alors, qu'est-ce que les Mercredis des Femmes, culture pour tous autour d'un verre ?
Alors, c'est une association qui est née maintenant il y a à peu près 8 ans, avec deux amis. Nous avons eu envie de rassembler des femmes qui, pour nous, les femmes, ont toujours plein d'idées, plein de choses, mais elles travaillent beaucoup dans l'invisible. Mmh. Et c'était essayer de les mettre en avant et qu'à partir de leur réseau, elles nous proposent des conférences, des activités culturelles. Et donc maintenant, on est une bonne trentaine et j'avoue que toutes participent très fortement à l'organisation le quatrième mercredi de chaque mois, à des conférences et en nous présentant leurs amis, leurs réseaux, etc.
Mmh. Donc, leurs ressources aussi intellectuelles.
Leurs ressources.
Et partagées.
Et partagées, voilà. Elles nous font partager et ça, c'est un grand moment.
Mmh. Et ça se passe à la Grande Motte.
Alors, ça se passe à la Grande Motte. Nous avons été au Prose pendant longtemps. Alors, maintenant, nous sommes au restaurant du Poséidon. Donc, le concept, c'est effectivement une conférence vers 18h30 jusqu'à à peu près 19h30. Et ensuite, suivi d'un apéritif et d'un dîner facultatif avec l'intervenant. Et nous avons des conférences dans différents domaines, c'est très varié.
Oui, alors justement, c'est les sujets que vous abordez dans ces rencontres, les thèmes sont différents. C'est en fonction de l'actualité ou c'est en fonction de quoi que vous choisissez les thèmes ?
Alors, oui, on peut dire qu'il y a un lien à l'actualité, notamment, on a eu récemment à Tignes, Jaïbi Ricardi qui nous a fait une conférence sur l'ancrage un peu géopolitique du Moyen-Orient. Lui, régulièrement, nous fait des conférences.
Oui, c'était sur le développement et l'expansion de l'islamisme.
De l'islamisme, voilà. Mmh. Et par contre, nous avons aussi des sujets sur le cancer, comment prévenir le cancer, quelques attitudes d'éducation sanitaire. Nous avons eu des sujets également, par exemple, sur les nouvelles lois en matière du dossier de soins à l'hôpital, d'éducation pour la santé. Mmh. C'est très varié.
Et puis la santé, c'est votre domaine.
C'est mon domaine, oui.
vous faites des formations. Oui. Parlez-nous un petit peu de votre parcours professionnel.
Alors, mon titre, c'est directrice de soins. Mm-hmm. J'ai été directrice de l'Institut en formation en soins infirmiers de Montpellier pendant quelques années. Mm-hmm. Après, j'ai pris la direction d'un institut à Aix-en-Provence des cadres. Mm-hmm. Et maintenant, je continue ma formation des cadres hospitaliers
un peu partout dans le monde. Parce que vous voyagez beaucoup, voilà. Vous intervenez au Maroc, dernièrement à Mayotte.
À Mayotte, j'arrive de Mayotte. J'ai aussi avec mes amies libanaises qui ont l'université en soins Saint-Joseph à Beyrouth. J'ai un métier passionnant, voilà.
Alors, revenons juste un instant à la conférence du 25 janvier dernier de Hatim Jaïbi Ricardi sur développement et expansion de l'islamisme. Le public a répondu présent pour cette rencontre ?
Oui, absolument. On a été complètement débordés. Habituellement, nous avons 50, 60 personnes. Mmh. Là, on a dépassé les 80 personnes. Mmh. Et donc, en plus, c'était la première fois qu'on faisait au Poséidon. Mais je pense que dans l'ensemble, on a fini notre conférence à 21h, alors que d'habitude, c'est beaucoup plus tôt. Mais tout le monde était très content.
Et puis, il y a tellement de choses à dire aussi.
Oui.
Et puis, Hatim...
Hatim, c'est un excellent conférencier, puis il connaît tellement bien son sujet.
Mais, alors justement, ce jour-là, vous dites que vous étiez plus de 80, vous vous y attendez pas. C'est le sujet qui a mobilisé autant de monde ?
Je pense, je pense. Alors c'était le sujet, il y avait aussi une incidence, c'est comme on s'est trouvé en octobre-novembre sans lieu d'accueil, et puis moi en plus j'étais partie aussi à l'étranger, donc il y avait aussi un renouveau, chacun avait très envie de retrouver notre petit concept, c'est-à-dire conférence, apéritif et dîner.
Très bien. Alors, justement, j'insiste un peu avec ce thème parce que c'est vrai qu'il est important. Le public présent, vous avez senti, bon, il était bien sûr intéressé, mais vous avez pu mesurer comme ça une tension, une inquiétude ?
Oui, il y a une forte inquiétude, et puis on ne pourrait pas dire le contraire, hein, dans notre concept, dans notre contexte plutôt, et je pense que la team a bien montré l'ancrage de ce sujet, d'où il vient, il apparaît pas maintenant, il se voit plus maintenant, mais d'où il vient, et ça c'était vraiment ma demande, et donc,
oui, donc il est remonté aux sources, hein, de cette doctrine.
De cette doctrine, voilà. Et de ses effets maintenant très pervers et malheureux. Donc il y avait vraiment beaucoup d'intérêt. Et puis, des personnes que je ne voyais pas actuellement sont venues parce que c'était ce
sujet.
Ce sujet.
Vous pensez que ça peut influencer au niveau... Bon, c'est peut-être trop vite parlé, au niveau des prochains votes ou...
Je ne sais pas, on est un peu une goutte d'eau, mais je pense qu'un éclairage dans l'information, dans l'histoire, ça porte toujours ses fruits. Même si on est des petites gouttes d'eau à notre niveau.
Alors, prochain rendez-vous le 22 février. Et là, on change complètement de thème. C'est le voyage sur le canal du Midi au XVIIIe siècle avec Martine Biard.
Oui.
Qui est Martine Biard ?
Alors Martine Biard, bon, c'est quelqu'un qui a un très beau cursus universitaire et puis qui est historienne principalement. Mmh. Et Martine a écrit pas mal de livres sur l'histoire de notre région, Languedoc-Roussillon. Mmh. Et là, elle nous traite donc un sujet qui lui tient à cœur, c'est le canal du Midi. Donc Paul Riquet, je pense, avec toute l'histoire. Mmh. Elle a écrit un livre récemment, j'ai écouté une autre de ses conférences, par exemple sur l'histoire de la poste en Languedoc-Roussillon.
Exact, ouais. Oui. Poste et messagerie en Languedoc-Roussillon de Louis XIV à la Révolution 1789, c'est un essai.
Oui. Moi j'aime bien avoir ces ancrages historiques parce que ça nous donne une vision d'aujourd'hui, bien sûr.
Et oui, parce que bon, quand même le canal du Midi a été, était important.
Oui.
Il a permis d'acheminer comme ça de la marchandise.
En latéral, à la Méditerranée, il a favorisé le commerce.
Et puis, Martine Biard, bon, elle a écrit de nombreux ouvrages, des romans, des recueils de poésie.
Oui. Elle a écrit...
Elle est conférencière.
Elle est conférencière. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Les Roy Barres », c'est-à-dire les épouses de ces messieurs, quand ces messieurs partaient en croisade en Orient, que les épouses restaient là. Elles se réunissaient pour jouer de la musique. Et puis, elles ont été beaucoup plus évoluées dans notre sud que plus loin, justement parce qu'elles étaient un peu toutes seules. Et que, on retrouve, elle nous dit notamment dans la cuisine, les épices de l'Orient, dans leurs soirées, les soirées, parce qu'on voyageait.
Et c'était donc, à cette époque-là, leur mercredi des femmes.
C'était leur mercredi, exact, c'est vrai, vous avez raison.
Alors ensuite, le 22 mars, nouveau rendez-vous. Alors là, c'est sur la surdité depuis le Moyen-Âge avec M. Gobi, proposé par Yolène. Yolène, c'est une membre de l'équipe ?
Voilà, c'est tout à fait ça. C'est Yolène qui nous a proposé de rencontrer ce monsieur que je ne connais pas. J'ai eu au téléphone, c'est tout. Bon, son thème
un
nous
historien.
Intéresse. Pas du tout, c'est un audioprothésiste. Et puis là, je pense une autre formation, mais c'est quelque chose qu'il connaît bien, donc on partage.
Avril, donc c'est Sarah Bernhardt.
Oui, alors ça avec Marie-Noël Marty, qu'on l'a déjà beaucoup entendu. Alors, Marie-Noël ne publie pas, c'est mon grand regret, mais elle parle de plusieurs sujets. Elle nous a fait notamment quelque chose sur le château des Margues. Et l'autre jour, elle m'a proposé plusieurs. Et j'ai dit, allez, on va sur Marie Bernhardt.
Eh oui. Alors là, après, on retrouve au mois de mai Martine Biard qui revient. Expression poétique au féminin. Et c'est proposé par Marie-Claude.
Oui, parce que c'est vrai que j'ai développé une attache avec Martine que j'aime beaucoup. Et que voilà, donc c'est moi qui lui ai demandé. Puis elle écrit beaucoup de poésie. Elle a Marie qui est peintre et de temps en temps elle nous a fait d'ailleurs une conférence entre la poésie et la peinture.
Et la peinture, oui. Et alors là, est-ce que vous préparez déjà la prochaine saison à partir de septembre 2017?
Alors on va le faire en juin. On va le faire en juin. Alors, je vous ai dit, le quatrième mercredi de chaque mois. Donc, la dernière réunion de juin, c'est l'Assemblée Générale et les propositions. Et maintenant, chacune amène quelque chose. J'ai plus vraiment d'espace libre.
Et donc, vous avez, ça reste ouvert au niveau des sujets, hein. Il n'y a pas d'angle précis.
Absolument. Oui, ce matin, on m'a parlé d'un auteur que vous avez rencontré, là, avec un livre, et j'ai hâte de le rencontrer. Voilà, j'ai vu son livre, et c'est une bonne idée.
Oui, un jeune auteur, donc, qui sera tout à l'heure ici dans nos studios.
C'est ça.
Qui vient de Mayotte.
Des Comores.
Des Comores,
alors,
pardon.
Ou en juin au Moroni, je ne sais pas.
Ben, on en saura. Oui, exactement. Oui. D'autant qu'il a beaucoup de talent.
Ah oui,
il a beaucoup de talent.
C'est ce qu'on m'a dit.
Pour celles et ceux qui veulent participer à ces rendez-vous.
Alors, donc, on fait des affiches. Alors, dites pas, on est à l'Office du Tourisme, on est répertorié
de la
Grande Motte. Voilà. Donc, ça, on est répertorié. Après, ben, c'est le lien. Alors, il n'y a pas de téléphone, il y a une adresse email qui est les mercredis culture, tout attaché, les mercredis culture, @orange.fr. Et vous prenez attache avec moi, j'envoie les propositions de programme et les affiches. Mais on est à l'Office du Tourisme.
Marie-Claude Moncey, merci.
Merci à vous surtout.
Je vous en prie. C'était Montpellier, ma ville, dédiée à des femmes de courage, actives, engagées. Bye bye.